le mener dans sa voiture, Arnoux était parti la veille, ne résistant plus à son besoin de grand air. Chaque année, aux premières feuilles, durant plusieurs jours de suite, il décampait le matin, faisait de longues courses à travers champs, buvait du lait dans les fermes, batifolait avec les villageoises, s'informait des récoltes et rapportait des pieds de salade dans son mouchoir. Enfin, réalisant un vieux rêve, il s'était acheté une maison de campagne. Pendant que Frédéric parlait au commis, Mademoiselle Batenaz survint et fut désappointée de ne pas voir Arnoux. Il resterait là-bas encore 2 jours, peut-être. Le commis lui conseilla d'y aller. Elle ne pouvait y aller. D'écrire une lettre, elle avait peur que la lettre ne fût perdue. Frédéric s'offrit à la porter lui-même. Elle en fit une rapidement et le conjura de la remettre sans témoin. 40 minutes après, il débarquait à Saint-Cloud. La maison, 100 pas plus loin que le pont, se trouvait à mi-hauteur de la colline. Les murs du jardin étaient cachés par 2 rangs de tilleuls, et une large pelouse descendait jusqu'au bord de la rivière. La porte de la grille étant ouverte, Frédéric entra. Arnoux, étendu sur l'herbe, jouait avec une portée de petits chats. Cette distraction paraissait l'absorber infiniment. La lettre de Mademoiselle Batenaz le tira de sa torpeur. « Diable, diable, c'est ennuyeux. Elle a raison, il faut que je parte. » Puis, ayant fourré la missive dans sa poche, il prit plaisir à montrer son domaine. Il montra tout, l'écurie, le hangar, la cuisine. Le salon était à droite, et du côté de Paris donnait sur une varangue en treillage, chargée d'une clématite. Mais au-dessus de leur tête, une roulade éclata. Madame Arnoux, se croyant seule, s'amusait à chanter. Elle faisait des gammes, des tris, des arpèges. Il y avait de longues notes qui semblaient se tenir suspendues. D'autres tombaient précipitées, comme les gouttelettes d'une cascade, et sa voix, passant par la jalousie, coupait le grand silence et montait vers le ciel bleu. Elle cessa tout à coup, quand M. et Mme Oudry, deux voisins, se présentèrent. Puis, elle parut elle-même au haut du perron, et comme elle descendait les marches, il aperçut son pied. Elle avait 2 petites chaussures découvertes en peau mordorée, avec 3 pattes transversales, ce qui dessinait sur ses bas un grillage d'or. Les invités arrivèrent. Sauf Maître le Faucheur, avocat, c'étaient les convives du jeudi. Chacun avait apporté quelques cadeaux. Dittmer, une écharpe syrienne, Rosenwald, un album de romance, Burieux, une aquarelle, son base, sa propre caricature, et Pellerin, un fusain, représentant une espèce de danse macabre, hideuse fantaisie d'une exécution médiocre. Hussonnet s'était dispensé de tout présent. Frédéric attendit après les autres pour offrir le sien. Elle l'en remercia beaucoup. Alors il dit « Mais c'est presque une dette. J'étais si fâché. » « De quoi donc ? » reprit-elle. « Je ne comprends pas. » « À table !» fit Arnoux en le saisissant par le bras. Puis, dans l'oreille, « Vous n'êtes guère malin, vous. » Rien n'était plaisant comme la salle à manger peinte d'une couleur vert d'eau. À l'un des bouts, une nymphe de pierre trempait son orteil dans un bassin en forme de coquille. Par les fenêtres ouvertes, on apercevait tout le jardin avec la longue pelouse que flanquait un vieux pin d'Écosse aux 3/4 dépouillé. Des massifs de fleurs la bombaient inégalement, et au-delà du fleuve se développait en large demi-cercle le bois de Boulogne, Neuilly, Sèvres, Meudon. Devant la grille, en face, un canot à la voile prenait des bordées. On causa d'abord de cette vue que l'on avait, puis du paysage en général, et les discussions commençaient quand Arnoux donna l'ordre à son domestique d'atteler l'américaine vers les 9h30. Une lettre de son caissier le rappelait. « Veux-tu que je m'en retourne avec toi ?» dit Madame Arnoux. « Mais certainement. » Et en lui faisant un beau salut, « Vous savez bien, madame, qu'on ne peut vivre sans vous. » Tous la complimentèrent d'avoir un si bon mari. « Ah, c'est que je ne suis pas seule, » répliqua-t-elle doucement en montrant sa petite fille. Puis, la conversation ayant repris sur la peinture, on parla d'un Ruisdael, dont Arnoux espérait des sommes considérables, et Pellerin lui demanda s'il était vrai que le fameux Saul Mathias de Londres fut venu le mois passé lui en offrir 23 000 francs. « Rien de plus vrai. » Et, se tournant vers Frédéric, « C'est même le monsieur que je promenais l'autre jour à l'Alhambra. Bien, malgré moi, je vous assure, car ces Anglais ne sont pas drôles. » Frédéric, soupçonnant dans la lettre de Mademoiselle Vatenaz quelque histoire de femme, avait admiré l'aisance du sieur Arnoux à trouver un moyen honnête de déguerpir. Mais son nouveau mensonge, absolument inutile, lui fit écarquiller les yeux. Le marchand ajouta d'un air simple : « Comment l'appelez-vous donc, ce grand jeune homme, votre ami ?»« Des Lauriers, » dit vivement Frédéric. Et pour réparer les torts qu'il se sentait à son endroit, il le vanta comme une intelligence supérieure. « Ah, vraiment ? Mais il n'a pas l'air si brave garçon que l'autre, le commis de roulage. » Frédéric maudit du sardier. Elle allait croire qu'il frayait avec les gens du commun. Ensuite, il fut question des embellissements de la capitale, des quartiers nouveaux, et le bonhomme Oudrier vint à citer, parmi les grands spéculateurs, M. D'Ambreuse. Frédéric, saisissant l'occasion de se faire valoir, dit qu'il le connaissait. Mais Pellerin se lança dans une catilinaire contre les épiciers. Vendeurs de chandelles ou d'argent, il n'y voyait pas de différence. Puis Rosenwald et Burieux devisèrent porcelaine. Arnoux causait jardinage avec Madame Audry. Son base, loustique de la vieille école, s'amusait à blaguer son époux. Il l'appelait Audry, comme l'acteur. Déclara qu'il devait descendre d'Audry, le peintre des chiens, car la bosse des animaux était visible sur son front. Il voulut même lui tâter le crâne. L'autre s'en défendait à cause de sa perruque, et le dessert finit avec des éclats de rire. Quand on eut pris le café sous les tilleuls, en fumant, et fait plusieurs tours dans le jardin, on alla se promener le long de la rivière. La compagnie s'arrêta devant un pêcheur, qui nettoyait des anguilles dans une boutique à poissons. Mademoiselle Marthe voulut les voir. Il vida sa boîte sur l'herbe, et la petite fille se jetait à genoux pour les rattraper, riait de plaisir, criait d'effroi. Toutes furent perdues. Arnoux les paya. Il eut ensuite l'idée de faire une promenade en canot. Un côté de l'horizon commençait à pâlir, tandis que de l'autre, une large couleur orange s'étalait dans le ciel et était plus empourprée au faîte des collines, devenues complètement noires. Madame Arnoux se tenait assise sur une grosse pierre, ayant cette lueur d'incendie derrière elle. Les autres personnes flânaient çà et là. Hussonnet, au bas de la berge, faisait des ricochets sur l'eau. Arnoux revint, suivi par une vieille chaloupe où, malgré les représentations les plus sages, il empila ses convives. Elle sombrait, il fallut débarquer. Déjà des bougies brûlaient dans le salon, tout tendu de perse, avec des girandoles en cristal contre les murs. La mère Audry s'endormait doucement dans un fauteuil,